Bonjour à tous et bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, rencontre philosophique, H.P. Blavatsky et la naissance de l'homme intérieur. Rencontre philosophique animée par Denis Briquenet, philosophe.
Bonjour, vous souhaitez la bienvenue. Alors, il faut éteindre les cellulaires, mais il ne faut pas éteindre le chip mental pour l'activité. Oui, le thème de ce soir, c'est, comme cela vient d'être dit, l'homme intérieur, et en particulier la naissance de l'homme intérieur. C'est sûr que déjà avec ce titre-là, on est en droit de supposer que par conséquent, il doit naître. Et s'il doit naître, c'est que peut-être il n'est pas né, ce qui est quand même assez surprenant. Puisque dans notre expérience de tous les jours, le concept de l'homme intérieur n'est pas vraiment strictement, uniquement, une idée mentale, sinon nous apparaît comme une réalité existentielle, comme quelque chose que nous vivons. On a des soucis, on a des sentiments, on a des affects, on a des idées, on vit des sensations. On vit beaucoup de choses qui manifestement relèvent d'une dimension que l'on ne peut pas réduire à la simple extériorité. Il y a une réalité intérieure. À ce moment-là, pourquoi alors parler de la naissance de l'être intérieur? On aurait fort bien pu dire, essayons de voir comment est-ce que l'on peut développer l'être intérieur, par exemple, ou d'apprendre à mieux le connaître. Alors ça, c'est un point qui est important et c'est pour ça que dans cette série de conférences sur Madame Blavatsky, on va sortir ce point-là. Je expliquerai un petit peu tout à l'heure pourquoi c'est important de le sortir. C'est-à-dire l'homme intérieur. Avant ça, peut-être une petite précision. Lorsque l'on dit homme, c'est générique. C'est l'être humain. Donc ce n'est pas une question de genre. Hein. C'est aussi bien... Si on s'adresse maintenant à chacun d'entre nous, l'homme comme la femme. Il n'y a pas là une distinction spécifique basée sur le sexe. Donc pendant toute cette conférence, lorsque je vais parler de l'homme intérieur, c'est cela qu'il faut avoir dans l'idée. Et on ne va pas faire que de parler de l'homme intérieur. On va aussi parler de l'homme extérieur. Et c'est la relation entre les deux qui est fondamentale. Et là aussi, je vous l'expliquer un peu plus tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on s'appuie sur Madame Blavatsky? Tout à l'heure, je donnerai quelques éléments, mais très synthétiques, parce que ce n'est pas l'objectif de cette conférence, de parler de la vie de Madame Blavatsky et de son œuvre, qui est monumentale, qui est fondamentale, dans tout le domaine de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. Mais là aussi, c'est pareil, la spiritualité qu'il nous faudra aussi définir. Pour le moment, gardons cette... définition générale, c'est plutôt la dénomination générale, la spiritualité, qui est un grand sac, surtout aujourd'hui, dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. Et c'est le problème. Parce que il faut partir de la base qu'il y a peut-être des consciences, et je pense que oui, il y en a, et beaucoup, qui sont préoccupées du développement de la conscience, qui ont comme idée que le fait d'être ici, comme nous nous trouvons, avec manifestement un corps biologique et des réalités intérieures, que bon, mais il doit y avoir un sens. On n'est pas là comme ça. Il y a une destinée. Il y a une raison. Même si elle n'est pas évidente, même si il faut chercher, il faut fouiller. Disons qu'il y a des individus qui sont en quête. Ça, c'est important, parce que l'individu qui est en quête, ce n'est pas une décision que l'on prend par la raison. Ce n'est pas une décision strictement prise par la raison. Tiens, j'ai décidé, à partir de demain, de me préoccuper de moi-même. Et pas de faire simplement que de survivre, et pas faire simplement que de profiter de la vie. J'ai dit pas simplement. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas. Mais sinon, il y a comme un appel intérieur, comme quelque chose. Il y a comme ce que certains textes orientaux ont dénommé la voix du silence. Intéressant. cette voie du silence, c'est que le silence, c'est le silence de tout ce qui nous entoure. C'est le silence de tout ce qui nous est extérieur. C'est le silence de l'homme extérieur. La voie du silence. On pourrait se dire, ma foi, si je tais tout, j'éteins la radio, la musique, la télévision, le iPhone, etc. Je vais entendre plus rien du tout. La voie du silence est une voie qui se rapporte à l'intériorité, qui se rapporte à l'homme intérieur. Alors, dès le départ, rien qu'en disant cela, il est important de réaliser tout de suite qu'on est en train de parler de deux visions. On touche deux visions de l'homme, deux visions de la vie, deux visions de la nature, deux visions de la nature. L'une est matérialiste. Alors, je pense que vous savez ce que ça veut dire, matérialiste, ou ce qu'est le matérialisme. Le matérialisme, c'est une pensée selon laquelle tout ce qui existe provient, naît de la matière. Ça ne veut pas dire avoir la considération du matériel. Il faut avoir la considération du matériel. Ça. Et il y a une autre vision que je ne vais pas qualifier précisément, parce que si je la qualifie, je risque d'aller directement dans un piège qu'il nous faut dénoncer. Non pas en accusant qui que ce soit, mais dénoncer un piège mental dans lequel il peut y avoir une dérive qui nous conduirait, avec cette bonne intention de se dire « je veux me développer en tant qu'être humain », alors je vais choisir une voie qui en parle. Je vais choisir une voie aussi qui donne des possibilités de le faire. Je vais peut-être choisir un certain nombre de pratiques qui me sont apparues ou qui m'ont été développées en me disant c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut développer pour aller en quête de l'être intérieur et puis de progresser de cette façon-là. Donc je ne vais pas la qualifier. Peut-être plus tard on va la qualifier. Je vais simplement la dénommer comme en contraste avec la première. C'est une vision non matérialiste. Alors on a la vision matérialiste et la vision non matérialiste. C'est celle précisément qu'il nous faut découvrir. Et c'est en cela que Madame Blavatsky peut être d'un grand secours. Parce que l'ensemble des textes qui, après Madame Blavatsky, vont se développer, les diverses théogonies, les diverses cosmogonies, les diverses spiritualités, incluant par exemple Rudolf Steiner, par exemple, qui était théosophe et qui s'est séparé au bout d'un certain temps, et bien d'autres, il y a eu une ponction qui était faite de l'œuvre magistrale de Madame Blavatsky, qui est la doctrine secrète. C'est comme ça qu'elle a été dénommée, c'est pas elle qui a choisi de l'appeler ainsi, mais enfin bon. La doctrine secrète avec un sens secret voulant dire intérieur. C'est ce qui ne peut pas être vu. Donc, il y a eu beaucoup de ponctions qui ont été faites, mais la reconnaissance des sources n'a pas été faite. Alors ça, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, peut-être que dans le débat tout à l'heure, on pourrait éventuellement en parler. Mais Madame Blavatsky est un phare en ce qui concerne la spiritualité, et particulièrement pour l'Occident, puisque c'est grâce à elle que l'Occident a pu retrouver certaines de ses racines spirituelles qui avaient été oubliées depuis déjà pas mal de temps. Alors bon, c'est pas le thème là de ce soir de rentrer trop dans le détail, mais quand je cite Madame Blavatsky et la ressource de la doctrine secrète, qui est son œuvre magistrale, il y a bien d'autres choses qui ont été écrites. C'est pas simplement pour viser une personne qui a pensé telle chose, qui a décrit telle chose. C'est un travail colossal qui a été fait, dont la reconnaissance aujourd'hui, comme d'ailleurs elle l'avait elle-même prédit, est de plus en plus forte, particulièrement au niveau de la science, en ce qui concerne la cosmologie, par exemple. Bon, mais à l'époque, au XIXe siècle, n'oubliez pas, on est dans une époque positiviste. Bon, enfin bref, de ça on pourra peut-être aussi en parler lors de la conférence. Donc c'est une vision non matérialiste, et c'est celle-là qui nous intéresse par conséquent ce soir. Alors on va attaquer de front le thème de l'homme intérieur. Je ne vais pas arriver tout de suite à ce qu'en dit Madame Blavatsky, je vais parler un peu pour amener précisément ce qu'elle en dit. Et ensuite on verra les développements peut-être plus essentiels qu'il nous faut, et à la fin on discute. On échange, on peut voir un petit peu les choses. Alors d'abord, l'homme intérieur, ou l'être humain, hein, je le répète, hein, ben, c'est nous. C'est chacun d'entre nous. Nous sommes collectivement, d'une manière générique, un être humain, et c'est cela qui nous relie tous. Hein, on se différencie pour avec différents aspects extérieurs et aussi, entre guillemets, intérieurs, comme on va le voir tout de suite, mais on appartient tous à l'espèce humaine. Donc il y a déjà comme un archétype, hein, pour employer ce terme, mais peut-être pas forcément dans le sens le plus hautement philosophique, mais nous sommes tous des êtres humains. Bien. Première considération, c'est visible. Il n'y a pas des fantômes devant moi. Et c'est pas un fantôme qui vous parle. C'est-à-dire, c'est visible. Bon, par conséquent, c'est tangible. On peut le voir. Alors, restons avec celui-là, parce que c'est une base. On va pas commencer à parler d'un homme dans les nuages. Hein? Bon, alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont invisibles? Oui. Mais avant de considérer l'invisible, il faut que l'on considère le non-visible. Mais qui pourrait l'être. Par exemple, c'est certain que vous ne voyez pas ma rate. Et moi, je ne vois pas votre foie ou les poumons. Et je ne peux pas non plus tomber en admiration devant le rayonnement exceptionnel de votre cerveau. Ça ne se voit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas invisible. Mais ça ne se voit pas. Alors, il y a le visible, première catégorie. Il y a le non-visible, deuxième catégorie, parce que c'est quelque chose qui est visible mais qui est caché à la vue, mais qui serait visible par l'exercice de nos sens, particulièrement de la vue, ou du toucher. Je pense que les chirurgiens touchent ce dont ils ont à œuvrer pour soigner quelqu'un. Et il y a la troisième catégorie qui est l'invisible. Et là, on est toujours en train de parler de nous. Là. On est toujours en train de parler ou partir d'un point de référence qui est nous que je peux voir. Voir, non voir et invisible. Bien. Dès le départ, il faut donc préciser quelque chose. C'est que la dimension invisible, pas celle qu'on ne peut pas voir, parce que ce sont les organes qui sont cachés, mais la dimension invisible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir. On aura beau disséquer le corps, regarder vite en dessous du cœur, rapidement pour voir si on voit quelque chose qui nous fait dire « Ah, c'est ça l'esprit, mais il est malin, il se cache sous les organes, alors il faut faire vite. » On fait semblant d'enlever le foie, mais immédiatement on prend un poumon, on l'enlève rapidement pour voir, parce que peut-être il se cache dessous. Bon, donc non. Hein. Alors la grande confusion, c'est que cet invisible qui existe dans l'homme visible est considéré comme étant l'homme intérieur. Et ce que HPB va nous dire, et pas que elle, c'est-à-dire toutes les spiritualités d'Orient et d'Occident, ce qu'elles vont nous dire, c'est que non, pas du tout. Ce n'est pas l'être intérieur. Donc il y a une confusion qui est une confusion énorme. Et cette confusion peut avoir des conséquences dramatiques pour quiconque cherche, pour quiconque est en quête. Pour quiconque de sa quête veut en faire une conquête. C'est-à-dire pas simplement d'avoir l'idée qu'il puisse exister un être intérieur, un homme intérieur, mais aussi que s'il existe, alors peut-être qu'il faut en faire la conquête. Ou conquérir quelque chose qui puisse permettre de connecter à cet être intérieur. C'est ça la définition que l'on peut appliquer à toutes les voies spirituelles qui nous ont parlé d'initiation, de formation de soi, de transformation, de transmutation, utilisant des symboles alchimiques et autres, qui de toute façon, pour qu'ils puissent être réellement saisis à leur juste valeur, opérationnelle, opérative, implique de ne pas faire la confusion entre l'invisible qui existe dans l'être humain extérieur que l'on peut voir et l'homme intérieur. Et c'est ça le thème. C'est ça le thème. Donc, il est important Alors parfait, alors on va commencer déjà par ça, précisément. Étant donné qu'il y a une confusion, il faut qu'on essaye d'enlever la confusion. Ben, c'est une confusion sévère. Elle est sévère à cause, particulièrement en Occident, à cause des derniers siècles. Le 19e siècle est un siècle positiviste matérialiste, qui a mis à l'écart la philosophie. Et encore toute cette prétention qu'il y avait que la philosophie pouvait peut-être amener à dire quelque chose d'intéressant et de réel sur la vie. Non, non, non. On les a placés dans un endroit. Nous, les scientifiques positivistes, nous allons faire les expériences, on va retirer les données, et vous, parce qu'il faut bien qu'on fasse quelque chose avec vous, les philosophes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Surtout dans cette idée que le philosophe, c'est un intellectuel qui ne sait pas se servir de ses 10 doigts, qui n'est pas pratique, qui est toujours dans les nuages, en train d'élaborer des théories. Non. Les théories, c'est nous, les scientifiques, qui allons les faire parce que nous, on sait comment faire. Vous allez classer les résultats. Alors là, c'est plus une confusion, là. C'est carrément une fusion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction. Alors, est-ce qu'on peut vérifier ça? Ah ben oui, c'est facile. C'est très facile, de nos jours, et particulièrement en Occident. Il suffit de poser la question, c'est quoi un corps? Le corps humain? C'est quoi? Ça existe, le corps humain? Ah là, tout le monde va dire oui, et puis on peut rajouter des choses et des détails, la bras, l'avant-bras, la main, les doigts, le pouce, le nez, les oreilles, le cou. Waouh, la différenciation extraordinaire. Le corps est une différenciation superbe. Hein? Et puis aussi, le côté non visible, mais qui est visible. Ben. Oh, on va parler des organes. On va parler des organes sans problème. Waouh, il y a une connaissance. Après, on dit, et l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit, c'est pas la même chose? Ah, mais je pensais que l'âme et l'esprit c'était pareil. Ah, oui, oui. Bon, mais mettons que ce soit pareil. Et qu'est-ce que c'est? Ah, oui, okay. Vous verrez qu'il y a une difficulté énorme de définir ça. Énorme! Pour ne pas dire une impossibilité. Ce qui est logique, hein, après plus de 2 siècles d'éducation, bon, d'éducation qui vise à nous dire que la seule réalité, c'est la réalité matérielle. Ce que je peux comprendre beaucoup plus au 19e siècle, ce que je comprends de moins en moins à l'époque dans laquelle nous nous trouvons, parce qu'il faut reconnaître que le développement des sciences fondamentales nous amène à une description du réel qui est tout sauf matière. Hein? Elle est énergie, elle est lumière, n'a pas le Big Bang qui est bing et bang, ça y est, on a le plâtre, on a le ciment, on a les arbres, on a toutes les choses. C'est-à-dire qu'au départ, on n'a pas quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment très important, c'est grave, parce que plus on avance, justement par la science fondamentale, à une description du réel qui est de plus en plus dématérialisée dans l'idée de la matière du 19e, et moins on se spiritualise. C'est-à-dire on dirait que plus on va dans une vision subtile comme résultat des sciences fondamentales de qu'est-ce que l'humain, etc., et plus l'être humain, lui, se matérialise, se densifie, prend du poids, devient une sorte d'obèse psychique. C'est psychique, hein, j'ai dit psychique, j'ai pas dit. Le reste, ça se voit, mais le côté psychique, ça se voit pas. Mais on peut être obèse psychiquement, là, et très volumineux mentalement, très lourd. Normalement, quand on parle d'esprit, quand on parle des spiritueux, par exemple, c'est du vin, c'est de l'alcool, c'est quelque chose qui te met en enthousiasme, qui t'élève, disons, d'une certaine façon. Bref, disons, l'esprit est tout sauf la pesanteur matérielle. Alors, très bien, puisqu'il faut partir de là et qu'il faut qu'on essaye d'y voir un petit peu clair dans la confusion, je vais m'aider de quelques diapositives. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi les diapos. Je pense qu'on va, voir... On va regarder quelques définitions. Tout à l'heure, je disais, bon, ben, en nous, il y a quelque chose qui est invisible, quelque chose qui est invisible et qu'on ne va pas trouver par la dissection. C'est le psychisme. C'est comme cela que l'on appelle aujourd'hui toutes ces dimensions qui nous apparaissent intérieures et qui effectivement le sont par rapport à nous, en tant qu'ici et maintenant.
Donc il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on nous dit du psychisme. Alors voilà une première définition. Ensemble conscient ou inconscient, considéré dans sa totalité ou partiellement, des phénomènes, des processus relevant de l'esprit.
Vous voyez que là, dans le psychisme vient de s'intégrer la notion de l'esprit, de l'intelligence vient de s'intégrer dans le psychisme la notion de l'intelligence. C'est large, c'est un ensemble qui est très large, le psychisme. C'est pas que la psyché. Hein, quand on emploie le terme du psychisme, s'intègre à l'intérieur des éléments qui peut-être n'ont rien à voir avec ça. C'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il y a mélange, confusion entre, par exemple, l'âme ou psyché, dans le langage grec, c'est la racine qui va donner psychologie, et l'esprit ou l'intelligence. Vous voyez, c'est là. Et de l'affectivité. Ah, alors en plus aussi, il y a l'affectivité. Donc le psychisme recouvre l'intelligence, le mental, l'affectivité. Rien que ça, dans un seul et même nom, nous avons plusieurs choses qui relèvent peut-être de quelque chose de différent. Oui, c'est pas ça que je veux développer, je veux simplement la vie psychique, c'est ça, très bien. C'est notre vie intérieure, la vie psychique. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous la dénommons. Autrement dit, ça veut dire que le psychisme égale l'homme intérieur. Dans notre acceptation contemporaine. Vous comprenez ? Faut-il une quête pour aller trouver cet homme intérieur ? Autrement dit, ça veut dire, sommes-nous en quête de vivre une activité affective parce qu'on ne l'a jamais vécue ? Sommes-nous en quête de trouver les moyens d'avoir pour une fois et une première fois une idée, une capacité d'articuler des idées, de raisonner parce qu'on ne l'a jamais fait ? Non. C'est du vécu. Autrement dit, voilà un point qui est important. Le psychisme est, il est, et tout le monde est content, parce que c'est vrai, c'est authentique, le psychisme est, nous sommes des êtres psychiques, il y a de la psyché, hein, ça se manifeste quand même assez bien dans les relations. Il peut y avoir quelqu'un qui d'un coup se pète une colère incroyable, parce que l'autre lui a dit quelque chose qu'il n'aime pas ou qu'elle n'aime pas, et c'est un espèce de mélange entre l'activité rationnelle, intellectuelle, et puis l'activité affective. Donc, conclusion, c'est un fait. Le psychisme est et existe. C'est-à-dire que le psychisme relève de l'être, cela est, plus cela existe. Vous comprenez ? Parce qu'il y a des choses qui sont et qui n'existent pas. Je vais essayer de donner un exemple tout bête dans l'ordre de la biologique. Soit une graine de baobab. Graine de baobab. C'est quelque chose que tu mets dans ta poche. Ben quand le baobab il est là, et qu'il existe et qu'il est grand, tu ne peux plus le mettre dans ta poche. Hein. Mais là, tu peux le mettre dans ta poche. Alors, le baobab, il est là. Mais il n'existe pas. Comprenez ? Il ne s'est pas manifesté. Il est, mais il n'est pas manifesté. Le psychisme, pour nous, en tant qu'être humain, est manifeste, c'est manifeste. Hein? Et donc on pourra fonder là-dessus une voie de développement, de connaissance, de réflexion, d'analyse que l'on va appeler ou qui devrait s'appeler psychologie. C'est-à-dire l'étude de la psyché et de tout ce qu'elle recèle. Mais pas spiritualité, psychologie. Ouais. Bon, je vais continuer. Allons-y. Ah ben c'est moi qui ai le contact, j'appuie là-dessus là. N'importe lequel, ou je suis du milieu, quoi. À droite. Ah ben là, là tu peux le faire toi, bon, alors, voilà, alors, continuons, psychisme, encore psychisme. Chacun de nous vit à la fois sur deux plans. Ah ! On vit sur deux plans. Il y a une idée un petit peu intéressante, c'est-à-dire qu'on ne vit pas simplement dans un plan, dans deux plans. Bon, tout ça, ce n'est pas moi qui l'écris, ça vient des dictionnaires. Le psychisme manifeste s'agit, on s'en connaît, et un psychisme latent, inconscient et réprimé. C'est-à-dire que dans notre vie intérieure,
entre guillemets, vie intérieure, c'est-à-dire la vie psychique, il y a en plus de ça un jeu qui est un jeu entre le conscient et l'inconscient. Donc ça veut dire que dans cet invisible, il y a même des mouvements qui existent, qui font apparaître des choses, disparaître d'autres, réapparaître, etc. Tout ça fait la richesse de la psychologie, quelle que soit la doctrine au travers de laquelle elle s'est développée. Oui, s'il te plaît. Les traces affectives laissées par des incidents psychiques deviennent inconscientes, par refoulement. Qu'est-ce que là je veux souligner? C'est que ce sont des traces. C'est-à-dire que je vis quelque chose, c'est là, c'est manifeste. Je vis quelque chose de manifeste, je le ressens. Mon cœur palpite, j'ai les hormones qui s'agitent. Je commence à avoir des crispations. C'est quelque chose qui me fait dire « Oh, waouh, ça existe !» C'est bien là, mais j'aime pas. Alors je vais le repousser, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça. Il y a une poubelle là, je la mets dans le poubelle, ou dans le grenier, ou dans la cave. C'est-à-dire tout ce qui est subconscient, inconscient, etc. Ce n'est pas notre objet pour le moment. Notre objet, c'est de voir et de bien comprendre que le psychisme qui est compris comme homme intérieur ne l'est pas. En tout cas, ne l'est pas tel que Madame Blavatsky et l'ensemble des sagesses spirituelles vont nous le dire. Allons-y. Alors, voilà, suivi d'un déterminant ou détermination, cet ensemble psychisme, cet ensemble propre à une personne, là, moi, lui, vous, cet ensemble propre à une personne ou un ensemble de personnes, allez, on va manifester, prenons les casseroles, ou on va tous aller au sport, dans le hockey, tout ça, etc. Ou au théâtre, ensemble, vie collective et vie individuelle, ou personnelle. À un ensemble de personnes, bon, ou un animal en tant que pourvu d'une forme d'intelligence. Ouais. J'aime bien cette phrase-là, parce qu'effectivement, le monde animal n'est pas dépourvu d'une forme d'intelligence. Ce n'est pas simplement qu'une chose vivante. Bon. Continuons. Psychisme, alors voilà les exemples. Psychisme individuel, psychisme collectif, psychisme animal, psychisme humain. Autre façon de dire, un psychisme puéril, instable, inquiet, capricieux, dépourvu de sens critique, incapable d'attention, de concentration et de critique, etc., etc., etc. Finalement, c'est une description psychologique de la personne. Oui. Et enfin, dernière ressource pour voir, peut-être le médical va nous dire quelque chose qui va nous intéresser, le psychisme est l'ensemble des caractères psychiques d'un individu base de sa personnalité. Vous voyez, le rapport entre psychisme et personnalité. Et ça, c'est un point qui est important. Parce qu'on verra que dans l'enseignement spirituel, il y a une distinction entre la personnalité et l'individu. Et là, je vais le dire de manière très très synthétique, on aura l'occasion éventuellement d'en reparler. La personnalité est l'homme extérieur. Comme celui qu'on vient de décrire. L'homme extérieur, mais qui a ses affects, ses émotions, ses idées. C'est-à-dire qu'il y a une vie qui est une vie psychique. Personnalité. Et par contre, l'individu est, dans les enseignements spirituels d'Orient et d'Occident, est l'homme intérieur. C'est pour ça qu'on représente ça, dans certaines circonstances, par un carré, parce que l'on nous dit que la personnalité se constitue de quatre dimensions reconnaissables, et puis au-dessus, mais sans lien, au-dessus, un triangle ou une triade ou un esprit E majuscule qui est l'individu. Individu veut dire indivisible, ce qui n'est pas divisible. Mais la personnalité, si, est divisible. Parce que des fois, on est tout à fait la raison résonante sur d'elle-même, on a bien mangé, on a bien dormi, on a reçu une bonne paye, il y a une prime, il n'y a pas de problème affectif, je t'aime, tu m'aimes, tout est beau, on est calme, alors là, on raisonne, on se met à raisonner, à construire des choses qui d'ailleurs peuvent être tout à fait intéressantes. Puis le lendemain, nous arrive une tuile, dans ce cas-là, on est complètement à plat, le moral à plat, Et puis c'est une vision du monde qui est passée du soleil à l'obscurité totale, etc. Des variations qui sont les variations de la psyché. Donc on n'est pas un. On est très divisible au niveau de la personnalité. Regardez, dans la personnalité se trouve la raison raisonnante. On change d'avis, on change d'idée. Et on ne change pas d'idée parce que la science nous a démontré que l'idée que l'on avait prise comme étant certaine et juste hier est démontrée qu'elle est fausse. Ah ben c'est pour ça que je change d'idée. On change d'idée comme on veut, là, hein, en fonction des circonstances, souvent en fonction des circonstances qui sont affectives, hein, qui sont des éléments qui touchent plus la sensorialité, hein, la sensitivité. Ben, s'il faut changer d'avis pour que je puisse jouir de ce plaisir-là, une fois n'est pas coutume. Je vais changer d'avis momentanément, et puis après je reviendrai. Autrement dit, ça veut dire que la personnalité, elle est plurielle. Elle est plurielle. L'individu est singulier. Et la singularité, ce qui est indivisible, porte un autre nom, identité. C'est-à-dire que cette triade, ou cet esprit avec un grand E, c'est l'identité. Notre identité. Une personne qui change d'identité, ce n'est pas une personne qui change d'avis. C'est une personne qui, d'un coup, pensait être ça, et le lendemain, non. Autre chose, mais du point de vue de l'identité, ça porte des noms, ça, en psychologie. Des noms de maladies, on ne va pas les citer, hein. Mais qui, c'est pas réjouissant. Parce que perdre son identité, en assumer une autre, oh là là. Mais je vais vous dire un secret, par contre. Pour le commerce, c'est très bon. Parce que l'autre qui se croyait A, il y a 3 jours, il a acheté, puis maintenant il se croit B, il rachète encore pareil, la même chose. Et plus tard, il se croit D. Il achète encore la même chose. C'est génial d'avoir de multiples personnalités dans un monde marchand. Bref. Donc, individu, c'est indivisible. C'est-à-dire, c'est l'identité. Voilà. Donc, allons-y avec ça. S'il te plaît. Bon. Madame Blavatsky. Je ne vais pas en parler beaucoup. Il y a une conférence qui a été donnée par Catherine, la semaine dernière, je crois. Quelque chose comme cela. C'est une femme assez remarquable. Elle a fait 7 fois le tour du monde, elle a visité tous les continents, elle était en quête des traditions spirituelles. Mais pas pour son plaisir, pour récupérer les éléments de la spiritualité une dans ses manifestations multiples. Ceci va donner lieu à une discipline plus tard, qui est une discipline qui reste aussi très valide et qu'il faut aussi prendre. Peut-être qu'on en parlera dans le cadre du débat. Et qui est symbolisme comparé. C'est-à-dire l'idée selon laquelle, bon, s'il est un esprit, mettons, avec un E majuscule, bon, ben, il a été saisi à diverses époques, avec diverses intensités, partout sur la planète. Autrement dit, disons-le d'une autre façon, toutes les civilisations ont eu au moins un moment de spiritualité. Je dis bien au moins. Parce que c'est obligatoire. S'il n'y a pas ce moment de spiritualité, il n'y a pas de civilisation. C'est-à-dire, dès l'instant qu'il y a civilisation, c'est qu'il y a spiritualité. Après, ça peut se perdre. La chose, elle est là. Et bon, on la perd. Il y a une flamme qui est là, il y a un feu qui est là, il faut l'alimenter. Si on ne l'alimente pas, ben, pendant qu'il était là, on a fait quelque chose, et puis après, on se laisse porter par l'inertie. Et on essaye de garantir et de conserver les choses matérielles. Hein? C'est-à-dire que c'est comme une flamme dans une lampe à huile. C'est pas parce que ma lampe à huile, là, d'un coup, j'ai la flamme, parce qu'il y a de l'huile à l'intérieur de la lampe, et qu'il y a la mèche, que ça y est, je vais la laisser, comme une bougie. Si tu veux prendre une bougie, là, t'allumes la bougie, puis ça y est, c'est éternel, vital. La bougie va rester allumée, la flamme va rester là, oh, tout le temps. Mais non. Non, il y a un moment donné où il faut alimenter la flamme. La flamme, même physiquement une flamme, est la présence de quelque chose de subtil dans un monde qui ne la porte pas, dans un monde qui ne lui correspond pas. Une flamme, c'est la matérialisation d'une dimension invisible. C'est pour ça que je peux essayer de la prendre, je la prends là, la flamme, pour l'amener dans la bougie ici, pour allumer une autre bougie. Bonjour les dégâts. Enfin, peut-être que certains sont des fakirs et qu'ils arrivent à le faire, mais ce sont les exceptions qui confirment la règle. Mais non. Le feu a toujours été symbole d'une dimension subtile. De plusieurs dimensions subtiles. Pas simplement de la dimension mentale. Mais particulièrement de la dimension mentale. Pour nous, pareil. C'est-à-dire que quand on y réfléchit, des fois, on arrive à comprendre. C'est clair. Non, c'est pas clair, c'est obscur. Ah, on explique. Puis d'un coup, ah, ça y est, c'est clair, je vois. C'est une fonction de la lumière. C'est-à-dire de l'illumination. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Donc, elle rassemble ce témoignage-là. Et aussi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle cherche à relier une connaissance, hein, qui est une connaissance qu'on va qualifier de spirituelle, à la science de son époque. C'est ce qu'on trouve aussi au sein de la doctrine secrète, même si elle dit elle-même, écoutez, vous inquiétez pas, il y a des choses qui sont là, qui sont dites, et ça va prendre un peu plus de temps pour qu'on les reconnaisse. Ça va prendre un peu plus de temps à la science positiviste, à la science existante, pour y arriver. Mais on va y arriver. Et elle a raison. Aujourd'hui, faire une étude de la doctrine secrète du point de vue des sciences et de regarder ce que Madame Blavatsky mettait à jour à son époque avec ce qui aujourd'hui est connu est absolument époustouflant. Autrement dit, ça veut dire que on a là un témoignage comme quoi elle n'a pas été sur des élucubrations. Je ne sais pas si vous avez lu, j'imagine oui, un petit peu au moins la doctrine secrète. Ça, c'est... Il y a à l'intérieur de ces ouvrages une connaissance qui implique aujourd'hui, je ne sais pas quoi, plusieurs ordinateurs, uniquement pour le savoir. Elle a réagi contre le positivisme, c'est-à-dire contre le matérialisme athée, ce qui est assez compréhensible pour ce qu'elle présente. Oui. Alors voilà ce que nous dit Madame Blavatsky, ce qu'est l'homme intérieur. Et c'est lui qui nous intéresse, et je vais expliquer tout à l'heure aussi pourquoi, même si déjà je l'ai touché dans les moments précédents. Ça vaut le coup de le lire tranquillement. Citation. L'homme intérieur, et là on met des majuscules, alors des fois si on nous critique parce que, ouais vous mettez des majuscules partout. Non, pas partout. Ouais mais parfois il y a l'homme avec majuscules et parfois il y a l'homme avec des minuscules. Ah oui. Mais pourquoi? Bah c'est pour les distinguer. Hein, l'homme extérieur, on va le marquer avec une minuscule, et l'homme intérieur, on va le marquer avec une majuscule. Et pourquoi? Parce que c'est pas le même. Ce n'est pas le même. Et l'homme intérieur est essentiel. Il est justement l'essence. Il est l'essentiel, parce que ce qui est essentiel ne peut être que le produit de l'essence. Hein? Voilà. Très bien. Donc l'homme intérieur est la véritable entité, l'entité. Hein? La racine se rapporte au terme de l'être. Entité immortelle qui vit en chacun de nous, être humain, qui vit en chacun de nous, être humain, ça ne fait pas l'être humain, ça vit à l'intérieur de nous, mais ça ne fait pas l'être humain. De la même manière que la graine de baobab vit à l'intérieur de la terre, hein, mais ça ne fait pas la terre, le baobab, vous voyez ? Les petites nuances sont importantes. Hein. Non, la forme extérieure est mortelle, d'argile que nous appelons notre corps. Autrement dit, pour être encore plus clair, en application avec ce qui est écrit là, celui qui vous parle, moi, Bibi, Fricotin, là, vous avez, vous me voyez là, hein, mais c'est le mortel qui vous parle. C'est pas l'immortel qui vous parle. C'est la forme mortelle. Et le langage qui est utilisé, les mots qui sortent et qui se rapportent à des idées, tout ça c'est mortel. Ben rien resté du tout. Rien. Poussière. Des os peut-être, des os. Hein. Rien. Et bon, ce que je vois aussi, pareil. C'est, enfin, bref, nous sommes tous frères et sœurs, on est tous mortels. Donc, rassurons-nous, quand on parle, quand HPB parle de l'entité immortelle, elle parle de quelque chose d'autre. Ça, c'est majeur. Quelque chose d'autre. Qui n'est pas le psychisme. Qui n'est pas le psychisme. C'est important, parce que la confusion entre la vie intérieure et la vie psychique avec la vie spirituelle nous amène dans des situations qui sont très embêtantes. Parce qu'on s'engage dans des voies pensant
qu'en fait, l'on marche en esprit dans une voie spirituelle. Non, on marche dans une voie de développement du psychisme.
C'est pas mauvais, hein. J'ai pas dit que c'était mauvais. Vous avez, quelqu'un a entendu que je dis que c'était mauvais?
Non, non. J'ai pas dit que la vie psychique était mauvaise. Ce que je dis, c'est la confusion entre le psychisme et la spiritualité. Ça, c'est très bon. Maintenant, je vais le préciser encore dans quelques minutes. L'homme intérieur. Le terme s'applique, toujours Madame Blavatsky, à strictement parler, seulement à l'ego supérieur. Ah bon, alors, s'il y a un ego supérieur, il y en a un autre qui est inférieur. Hein? Bon, attention, ce n'est pas péjoratif. Ça veut dire qu'il y en a un qui est au-dessus et l'autre qui est en dessous. C'est pas péjoratif de dire qu'ici on est dans le sous-sol et qu'il y a un premier étage. Hein? Il y a un premier étage, il y a un sous-sol. C'est pas un jugement de valeur. C'est une réalité descriptive des choses. Donc il y a un ego supérieur, noté, majuscule. Encore une fois, des majuscules. Et des moments, non, mais des minuscules. Ego inférieur, tout en minuscule. Ego supérieur, enfin, majuscule. Pourquoi? Parce que ça se rapporte à l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est la chose qui est la plus importante dans la vision qui est celle qu'on est en train de développer. Par rapport aux formes invisibles de l'homme extérieur, qu'est-ce que sont les formes invisibles de l'homme extérieur? Le psychisme. Et pas en train de parler des organes que j'ai qualifiés tout à l'heure de non-visibles, mais bien de cet invisible qu'est le psychisme, à ne pas confondre, mais pour toutes, avec l'ego supérieur, avec l'homme intérieur. Vous voyez ? Majeur. Oui. Alors voilà, l'homme intérieur. On va le représenter comme une triade, et on va utiliser des termes sanscrits. Et on va les conserver, ces termes sanscrits. Je ne vais pas faire ici des développements qui sont des développements qui sont nécessaires pour qui veut marcher, hein. Qui veut non seulement partir à la quête, mais à la conquête. Pourquoi utiliser des mots sanscrits? Parce que si on traduit ces mots-là en termes contemporains, c'est l'équivalent de prendre un citron et de le presser complètement, et puis de le laisser sur la table en disant « voilà ». C'est plus ça. Parce que notre langage, du point de vue de l'homme intérieur, s'est réduit à une peau de chagrin. Notre langage contemporain et particulièrement occidental est extrêmement pauvre pour parler de l'homme intérieur.
Et pourquoi?
Mais parce que l'homme intérieur est tout simplement rejeté. Il n'existe pas. Vous voulez rire? Là, c'est en train de nous parler de l'esprit, corps, âme et esprit. L'esprit n'existe pas. L'âme n'existe pas. Ça, c'est le matérialisme dans l'éducation et dans la civilisation dans laquelle on est. Alors, on ne va pas s'attendre que si dans la culture, on est dans une culture matérialiste, qu'on va développer un vocabulaire riche pour quelque chose qui n'existe pas. C'est logique. Donc, tout est beau, tout est magnifique. Au moins, c'est cohérent. On a une vision matérialiste, on n'a pas un vocabulaire spirituel. Quelques mots. Alors, il y a un mot et qui contient plein de trucs. Par exemple, la triade ou l'esprit. Ah ben là, l'esprit, non, il y a trois niveaux. Il y a trois éléments qui le constituent. Il faut garder les termes sanscrits, comme cela, on va éviter le fait de perdre les notions. Il faut enrichir, il faut développer. Ce que nous appelons philosophie à la manière classique, à Nouvelle Acropole, est précisément ce développement. Parce que pour marcher quelque part, il faut une carte. Et si on marche vers une carte, qui est la carte dite spirituelle, il faut alors qu'il y ait un vocabulaire qui se rapporte bien à la topographie intérieure qui conduit à l'être intérieur. Bien. Donc, l'autre chose maintenant, est-ce que ce qui va suivre a comme objet de prouver l'existence de la triade de l'esprit? Mais pas du tout. Pas du tout. Libre à chacun d'y croire ou de ne pas y croire. Sincèrement, j'en ai rien à faire pendant la durée légale. La durée légale, c'est le moment entre maintenant et ma mort, c'est la durée légale. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, mais ça fait partie de la légalité de la nature. Voilà, tout le monde va mourir. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui est les consciences qui y croient et d'autres qui n'y croient pas. Maintenant, si dans la vision du monde de quelqu'un, le monde intérieur ou spirituel, c'est la dimension psychique, c'est le psychisme, et que cette personne est en quête d'amélioration de elle-même, mais parfait, qu'elle y aille, et c'est pas étonnant dans ce cas-là, qu'elle va prendre des voies qui sont des voies que l'on trouve particulièrement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le New Age, qui vise le développement, hein, la croissance personnelle. La croissance personnelle, c'est-à-dire quelque chose que j'ai déjà et que je veux cultiver pour qu'il se développe. Vous voyez ? Alors après, je vais prendre n'importe quoi comme voie multiple, comme pratique multiple, qui vise à développer le psychisme. Est-ce que c'est mauvais, ça ? Vous m'avez entendu dire que c'était mauvais ? Non. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis simplement que ce n'est pas le chemin qui conduit à l'être intérieur. Et que le grave problème, c'est si alors je pensais que ce chemin me conduit à l'être intérieur, là où tout simplement cela va me développer mon psychisme. Et peut-être que je vais me sentir mieux. Donc c'est un bien-être psychique qui est visé. Et est-ce que c'est mauvais ? Ben non, si tu te sens bien psychiquement, tu peux peut-être travailler sur toi-même. Si tu te sens mal psychiquement, si ton psychisme est sans dessus-dessous, c'est qu'il y a des crises et autres, ça va être difficile d'entreprendre la quête. Parce que toutes les quêtes spirituelles nous sont présentées symboliquement comme des combats. Tu vas combattre l'esprit ? Non, non, je ne veux pas combattre l'esprit. Arjuna, par exemple, pour prendre la Bhagavad Gita, Arjuna, quand il arrive au milieu du champ de bataille, le Kurukshetra, et qu'il est conduit par le conducteur de char, qui d'un coup se révèle à lui comme étant, ben, tu sais, je ne suis pas simplement le conducteur de char, hein, je suis Krishna, c'est-à-dire la voix de ta conscience spirituelle. Alors maintenant, tu vas m'écouter. Arjuna se retourne, sort sa dague, son marteau, sa scie, son arc, saute sur Arjuna, le découpe en petits morceaux. C'est pas ça. Hein. Le combat n'est pas contre Krishna. Hein. Le combat dont on parle, c'est contre nous-mêmes, ou c'est envers nous-mêmes. C'est-à-dire que le sujet du combat est précisément l'homme extérieur. Et on va essayer d'expliquer un peu mieux ça tout à l'heure. C'est précisément ça. Alors il y a une contradiction. Il ne s'agit pas de développer l'homme extérieur pour le rendre plus fort. C'est-à-dire il s'agit de travailler sur soi de manière à atteindre un certain résultat. Ce résultat que l'on vise à atteindre est en correspondance avec l'être intérieur, avec la quête de l'être intérieur. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Parce que si quelqu'un sincèrement veut partir en quête de l'esprit, veut s'engager dans un chemin de conquête qui l'amènera vers l'esprit, il ne faut pas qu'il aille se fourvoyer dans une voie de développement psychique. Il faut qu'il apprenne à travailler sur son psychisme, dans son psychisme, pour faire en sorte d'arriver à cette qualité, cette situation, où il sera possible, peut-être, d'établir un contact entre l'être extérieur et l'être intérieur. C'est-à-dire entre cela et puis ce qui n'est pas représenté ici et qui est la personnalité de moi. Est-ce que je suis spirituel parce que je vous parle de Madame Blavatsky ? Est-ce que je suis spirituel parce que je vais pouvoir parler du Dhammapada ? Faire un cours sur le sentier obtuple du Dhammapada, parler de Pythagore ? Voir la vision symbolique et spirituelle des Celtes, faire une analyse comparative de la notion de l'âme entre les diverses philosophies des sept écoles de l'Inde, etc. Pas du tout! Pas du tout! Mais alors vraiment rien, pas du tout, du tout, du tout! C'est pas parce que quelqu'un est capable de citer et de parler des chartes qui existent aujourd'hui pour un monde plus humain que ça fait de cette personne-là une personne plus humaine. Hein? Non, non. Les livres ne servent à rien de ce point de vue. Les livres ne remplacent pas le travail sur soi. Et puis ça ne tombe pas du ciel. Fini. Oui, c'est tombé du ciel, hein, dans le règne animal. Mais le règne humain, non. Le règne humain commence par cette affirmation « J'existe en tant que personne ». Donc c'est fini l'aide. Il n'y a plus d'aide. Il faut se prendre en main. C'est ça. Le niveau humain, c'est de se prendre en main. N'attends rien de l'extérieur. L'extérieur ne va pas t'aider. Rien. N'attends rien des textes spirituels. Ils ne vont pas t'aider. Ce qui va t'aider, c'est le mérite. Ton propre mérite de ton travail sur toi-même. Vous voyez que c'est deux voies complètement différentes.
complètement différente. Ce qui ne veut pas dire que dans la voie dont je veux parler, ça veut dire qu'il ne faut pas se préoccuper du psychisme. Si, si, bien sûr que si, parce que qu'est-ce qui doit se transmuter ? Prenons la symbolique alchimique. Dans la symbolique alchimique, l'or provient du plomb. Donc, est-ce que ça serait cohérent de dire, là, il y a le plomb, jetons le plomb, parce que je veux l'or, et d'attendre, peut-être qu'en regardant vers l'est, quand il y a une conjonction entre Vénus, Mercure et le Soleil, il va y avoir, pouf, d'un coup, des pépites qui vont tomber. Hein ? Non, ça ne marche pas. Alors peut-être que je vais aller dans les temples à Borobudur, en Inde, pour voir si, en étant là, en position de talala, boum, clac, d'un coup, les pépites vont tomber. Rien tombe. Rien ne tombe, rien n'est gratuit et rien n'est payant. Tout est basé sur le mérite, c'est-à-dire sur ton investissement. C'est pour ça qu'il est fondamental de comprendre ce qu'est l'être intérieur. Et je ne veux pas du tout prouver que ça existe. Non, non, ce qui m'intéresse, c'est que peut-être il y a des individus qui veulent marcher sur cette voie, qui veulent aller en quête d'eux-mêmes. Bon, ben voilà, c'est pour eux. Les autres, tant pis, c'est pas un problème. Hein, c'est vivre et laisser vivre. Alors voyons, Atma, Bouddhi, Manas, je ne vais pas les développer. Je vais simplement donner très rapidement quelques petites choses. Très rapidement. Nous développons ça dans d'autres circonstances. Atma, c'est un terme sanskrit qu'on va retrouver paradoxalement dans d'autres cultures, d'autres civilisations. Atma, c'est l'identité supérieure, fondamentale, essentielle. C'est notre véritable identité. C'est l'identité spirituelle. On nous dit que cette identité spirituelle est contemporaine de la manifestation de l'univers. Lorsque Hubert Reeves nous dit, hein, dans des écrits, Hubert Reeves, tout le monde connaît, nous écrit en fait que nous sommes poussière d'étoiles. C'est-à-dire que les atomes qui constituent notre corps étaient là et proviennent du début. Bon, alors, il suffit tout simplement d'avoir une vision qui ne réduit pas l'univers à la dimension strictement matérielle, mais qui y intègre une intelligence, hein, même si elle nous est inaccessible à notre entendement, mais qui y intègre une intelligence, qui y intègre un esprit et qui intègre une dimension animique pour que cette même présence depuis les origines existe aussi dans ce qui va être formé l'individu. Donc, Atma, c'est l'identité réelle. Nous pouvons la traduire d'un point de vue plus psychologique de cette manière-là. La volonté ou la puissance d'être soi-même, indépendamment de l'environnement, indépendamment de toutes circonstances. C'est-à-dire d'être un soi, d'être je suis, mais dont le « suis » ne dépend absolument pas de l'extérieur. C'est-à-dire, ce n'est pas « je suis » avec un attribut. Je suis conservateur. Je suis libéral. Hein? Ou « je suis » avec ce que je porte sur mon t-shirt. C'est-à-dire que j'assume une identité d'emprunt. Ce n'est pas mauvais non plus, parce qu'il faut aussi. Hein? Tant qu'on n'arrive pas à cette identité suprême, il faut qu'on le fasse. Bien. Bouddhi, c'est l'âme spirituelle, avec un A majuscule. C'est-à-dire, c'est ce par quoi se manifeste Atma. C'est le véhicule de l'identité. C'est la lumière à sa source. Vous imaginez une source de lumière, et il y a la lumière. La source est Atma, la lumière est Bouddhi. Et Manas, c'est l'intelligence. C'est l'ego actif. C'est cette puissance qui permet de distinguer, de faire la différence et de relier. Bon, alors ces trois pouvoirs spirituels qu'on ne va pas développer, simplement je les cite comme cela, c'est sûr qu'ils devraient être développés, mais pour l'objet de la conférence, c'est suffisant. Oui. Alors maintenant, voilà le point. Voilà l'homme intérieur et l'homme extérieur. Pour que l'on devienne humain, réellement humain, profondément humain, essentiellement humain, il faut se relier à l'humain. Et aujourd'hui, on en parle.
quand on parle de l'humanisme, quand on parle de qu'est-ce que nous devrions être en tant qu'individu et en tant que collectivité, c'est extraordinaire. Les descriptions qui sont les descriptions de ce que devrait être un humain est absolument lumineux. Donc en fait, on devient humain par connexion avec l'homme intérieur. Un monde nouveau et meilleur, un individu nouveau et meilleur, ne le sera que par le contact avec l'homme intérieur, c'est-à-dire avec sa réalité, sa vraie réalité. Donc il faut qu'il puisse y avoir un lien entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur qui est ici, c'est nous, avec notre psychisme, avec notre enthousiasme, avec nos moments de bonne humeur, de moins bonne humeur, de mauvaise humeur, avec nos humeurs, avec nos sensations intérieures. Ah, je sens, donc c'est vrai, c'est du sophisme. Enfin, les sophistes, on en parlait de ça. Telle tu sens les choses, telles elles sont. Telles tu ne les sens pas, telles elles ne sont pas. Donc ça veut dire que le critère du vrai est la sensation. J'ai ça dans le goût, c'est vrai. J'ai pas ça dans le goût,
c'est faux. Vous
comprenez ? Ça c'est très bien, c'est là. C'est pas un problème, nous sommes ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. En tant qu'homme extérieur, on fonctionne comme cela. Donc il ne faut pas qu'on le rejette. Il faut simplement qu'on se dise, mais oui, mais si je crois que en développant cela, je vais vers ce que je suis fondamentalement, erreur. Non. On développe ce que l'on est extérieurement. Dans cet homme extérieur qu'on a décrit tout à l'heure comme ayant sa vie psychique. C'est-à-dire cette intériorité qui n'est que du psychisme. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de maître. Si je développe mon psychisme, je n'ai pas besoin de maître. J'ai besoin de conseils. J'ai besoin de professeurs de yoga, de méditation, de ceci, cela. J'ai besoin de technique. Je n'ai pas besoin de maître. Là, oui, j'ai besoin de maître. Le maître, il est là. Le maître est l'homme intérieur. Et il faut que je devienne disciple du maître intérieur. Alors, disciple de toi-même. Attends. Si c'est employé, soit le disciple, devient le disciple de toi-même dans un développement du psychisme, hein, ça devient très embarrassant et très problématique. Parce que là, tu es en train de gonfler l'ego. Alors, vous verrez que ce qu'il faut qu'on arrive à définir, c'est aussi à localiser. C'est quoi l'âme? C'est quoi l'esprit? Comment ça fonctionne? C'est quoi la constitution de l'humain? C'est quoi notre constitution? Sinon, comment est-ce qu'on va faire pour travailler? Comment est-ce qu'on va marcher sur le chemin? Comment? Il faut qu'on soit guidé. Il nous faut une cartographie. Il nous faut des cartes. Il nous faut des orientations. Et surtout, ce qu'il nous faut, c'est des feedbacks. Il faut un feedback. Il faut que je puisse confirmer ce que j'ai fait. Je crois que j'ai bien fait. Il me semble que je suis sur la bonne voie. Qui va me le confirmer? J'ai besoin de quelqu'un pour me le confirmer. Et je ne vais pas prendre n'importe qui. Mais j'ai besoin d'un feedback. On a besoin d'un jugement. Le cœur se juge avec la plume. Symbole de l'Égypte ancienne. La plume de Ma'at. Ma'at. At. Bon, bref. C'est-à-dire, il nous faut une norme. Il ne peut pas y avoir de progrès s'il n'y a pas de norme. Parce qu'il faut qu'on puisse s'évaluer en fonction d'une norme. Et si on peut le faire avec une norme vivante, mieux. Et si on ne peut pas, ben essayons de travailler avec les textes qui sont les plus fondamentaux. Et travaillons pour en retirer la lumière. L'homme extérieur fonctionne sur l'inertie. L'homme intérieur sur la créativité. L'inertie, c'est lorsqu'on donne un mouvement, une impulsion à quelque chose, pouf, ça part dans le sens et la direction de l'impulsion, et avec l'énergie qui a été donnée par l'impulsion, jusqu'au moment où la résistance va faire que l'énergie va s'éteindre et que la chose va s'arrêter là. Le monde contemporain nous veut inerte, excité. Mais inerte, c'est-à-dire bougeons sans moteur propre. Sans moteur propre. Le moteur propre est là. C'est l'homme intérieur qui peut donner le moteur propre. Ça, c'est l'identité intérieure. C'est la puissance d'être soi-même. Puissance d'être soi-même. C'est l'objet et le sujet de la quête. Qui suis-je ?
C'est ça la question.
Il faut que j'aille à cette identité. C'est cette identité qui va dire qui je suis. Mais ce n'est pas un développement psychique. Vous comprenez ? C'est pas parce que je fais des choses qui me font plaisir que ça signifie que je suis sur la voie de l'être. Ce qui ne veut pas dire non plus que la chose, elle me fait du mal, donc je suis sur la voie de l'être. Vous comprenez ? C'est ni l'un ni l'autre, c'est quelque chose d'autre, c'est de la spiritualité, c'est pas du psychisme. Oui, on va faire une pause ici quelques minutes. Alors, la jonction entre l'homme extérieur et l'homme intérieur est symbolisée ici par ce petit pont. Ce petit pont, on le trouve dans les textes orientaux désignés comme étant le fil d'argent, que l'on retrouve aussi dans la mythologie ou dans la philosophie spirituelle de la Grèce ancienne, comme étant le fil d'Ariane, hein, c'est-à-dire une connexion avec cette identité spirituelle. Cette identité spirituelle n'est pas mon identité psychique. Mon identité psychique, c'est celle d'ici et maintenant. C'est elle que je dois qualifier. C'est cette identité psychique que je dois qualifier. Un des symboles de la psyché, c'est le miroir. Et dans le mythe, ou les mythes qui en parlent, il faut que la psyché devienne comme un miroir. Mais pas un miroir comme Narcisse, pas un miroir narcissique. Oh, qu'est-ce que je suis beau! Ça se peut-tu? Oh, je suis vraiment intelligent, donc effectivement, mon QI est vraiment supérieur. Je suis bien. Non, non, moi je suis arrivé. Je n'ai plus rien à faire. Je ne sais pas pourquoi je suis incarné dans la réalité. Là. Je pense que je suis incarné pour jouir. C'est mon paradis. Je suis déjà arrivé au meilleur de moi-même. Donc tout va bien. C'est le narcissique. Vous savez que dans le narcissisme aujourd'hui, c'est une triade. Il y a une triade qui est celle-là, mais qui est, disons, un petit peu malade, hein, qui est le narcissisme, l'arrogance et la vanité. Si vous gardez ces trois éléments, vous pouvez avoir un cadre de compréhension de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Le narcissisme ou nombrilisme, mais un nombrilisme satisfait. C'est-à-dire, c'est pas simplement que je suis nombriliste, je suis très satisfait. C'est-à-dire, je suis satisfait de moi-même, les problèmes qui m'arrivent, mais c'est à cause de tous les autres, ces tarés, qui viennent me créer des problèmes. Mais non, vous voyez, je ne suis pas coupable, je suis victime. La victimisation et l'infantilisme sont deux caractéristiques aussi qui correspondent bien à la société dans laquelle on se trouve. On nous prend vraiment pour des mômes. On nous raconte des trucs, on nous fait des ballons, hein, pour les réunions politiques. Il y a des ballons, il y a, il y a de la musique, rock, on va juste danser, autres, on a des pancartes, on crie comme des fous, l'autre qui fait semblant d'aimer tout le monde, et autres, pour, alors on va voter pour toi, on va voter pour toi, on va voter pour toi. Tout ça, c'est effectivement, ça fait appel à quoi ? À quoi ? À l'intelligence, ça s'appelle à Manas ? À la partie manassique qui peut-être peut s'exprimer là ? À quoi ? Prométhée, il est venu, il a pris un petit peu une parcelle du feu de l'Olympe et il l'a amené à l'humanité. Hein, cette parcelle qu'il a amenée à l'humanité, c'est un petit bout de Manas, un petit bout d'intelligence. Parce que l'idée, c'est, nous ne sommes plus des animaux simplement, nous sommes aussi des êtres humains. Et ce que l'animal fait par instinct, toi tu dois le faire par intelligence. Tu dois réussir à vivre ta vie et te développer par l'intelligence, pas par la force. L'animal utilise la force. Parce qu'il n'a pas d'autre moyen. On ne peut pas lui demander, écoute, arrête, assis-toi, prends de quoi, écris, réfléchis, intériorise. Fais donc une voie d'intériorisation. Inspecte ton intériorité. Hein? Introspecte. Intro. Inspecte, oui, mais intro. Qu'est-ce que c'est ça, intro? Tu vois? L'introspection, qui est la véritable voie du yoga. C'est pas de chercher à trouver ceci et cela pour se sentir mieux. C'est de savoir quels sont mes moteurs. Quels sont mes moteurs qui me font agir comme j'agis aujourd'hui. Est-ce que la façon avec laquelle j'agis aujourd'hui peut être comme un miroir? Est-ce que ça peut transformer la psyché pour que l'esprit puisse se refléter? Il est là, l'esprit, tout le temps, il est là. Il est là. Voilà, regardez, c'est comme ça l'esprit. Voilà. Il n'y a pas d'esprit.
ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous me racontez là? Vous êtes en train de me parler de la lumière? Où ça? Oui, oui, là. Non, il n'y a pas. Sic, il y a. Sic, il n'y a pas. Il y a, il n'y a pas, il y a, il n'y a pas. Vous voyez? C'est-à-dire, pour être illuminé, il faut se mettre sous la lumière. Ça, point. C'est-à-dire, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que tu t'es pas mis sous la lumière. Autant que tu n'as pas transformé ta psyché dans un miroir. Tu te satisfais de ton psychique. Tu ne travailles pas sur ton psychique. Tu n'es pas dans la voie discipulaire. Tu es dans la voie de l'autosatisfaction narcissique. Très bien, pourquoi pas? Intéresse-toi à la religion. Parce qu'après, il y a le paradis, hein, ou l'enfer. Tu vas te laver hein, par le confessionnal, c'est une machine à laver qui vraiment est excellente parce qu'elle coûte pas cher. Toi, tu y vas, bon, c'est un peu pénible parce que tu te mets à genoux pendant quelques temps, mais bon, à la fin, il t'absout, hop, et tu dis, bon, allez, va réciter 3-4 paternostères, ok, récite les deux premières phrases, et puis les trois mots à la fin, c'est fini, tu t'en vas. Laver ! On peut recommencer les mêmes erreurs, les mêmes péchés, les mêmes choses qu'il ne faut pas faire. De toute façon, il y a la machine à laver, libre service. Donc, tout est impeccable. Voilà. Alors, c'est ça la purification? Non, non, comme ça, tu ne fais pas de ta psyché un miroir. Vous comprenez? Miroir du ciel, l'architecture sacrée, la géographie sacrée. Quand vous regardez l'étude, même dans l'anthropologie contemporaine universitaire, c'est miroir du ciel. Machu Picchu, Borobudur, Thèbes, la cathédrale, miroir du ciel. Les pyramides, miroir du ciel. Pas nous qui le disons, c'est eux qui le disent. C'est-à-dire que ici puisse refléter, pour que cela puisse agir, les données spirituelles, les données essentielles. Et les données essentielles ne sont pas les données psychiques. Vous comprenez? Donc il faut, dans une situation comme ça, arriver à ça. Je ne suis pas encore la lumière, mais là, moi, j'ai les choses. Là, j'ai les éléments qui sont dans mon monde. Si je regarde ça, je vais être complètement ébloui. Que personne ne le fasse. Ou alors signer une lettre de décharge tout de suite, de regarder cette lumière qui sort du projecteur, ça va faire mal. Mais même imaginons que je puisse le faire, qu'est-ce que je vois? Rien. Je suis complètement aveugle. Mais par contre, je ne vais pas être aveugle aux symboles qui se représentent dans mon monde et qui viennent de l'esprit. Il faut que cette lumière-là vienne ici, et ça va venir ici sous une forme symbolique. C'est pour ça qu'il faut faire l'étude comparée des civilisations et des symboles, parce qu'ils sont porteurs de l'expérience spirituelle. Et c'est par là que l'on va pouvoir avancer et faire quelque chose. Oui. Donne-moi la suivante, s'il te plaît. Voilà. Pause. On va s'arrêter là, je reprendrai sur ça. Je vous assure que je ne vais pas le développer. Je veux simplement maintenant pouvoir vous situer les concepts de corps, âme et esprit, selon l'enseignement qui dit que nous sommes, êtres humains, là, potentiellement une constitution septenaire, un carré, qui est la personnalité, et l'esprit, qui est le triant. Mais l'esprit, pure potentialité. Il faut que quand même il puisse y avoir à un moment donné quelque chose qui fasse qu'il y ait un contact. Ça, on va parler après, ça ne va pas être trop long, une petite demi-heure, et puis c'est fini. Bon, allez, pause maintenant, s'il vous plaît. Cette diapositive nous permet d'avoir une vision un peu plus complexe, je n'ai pas dit compliquée, complexe de la notion de l'esprit, de l'âme et du corps. La définition de qu'est-ce que l'être humain comme corps, âme et esprit est commune dans toutes les traditions spirituelles du patrimoine de l'humanité. C'est même un des critères pour savoir si la tradition à laquelle on s'intéresse est spirituelle ou pas. L'esprit n'est pas l'âme. Évidemment, ni l'esprit, ni l'âme, ni le corps. Là, vous avez une présentation qui est une présentation qui fait intervenir d'autres termes en sanskrit, qui sont ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et qui correspondent à la vision septenaire de la définition de ce qu'est l'être humain lorsqu'on le réintègre, l'homme intérieur. L'homme intérieur est là. On ne va pas développer tout ça, mais simplement, vous voyez qu'il y a l'ego personnel avec cette dénomination sanskrit, kama, manas, et puis l'âme spirituelle et le soi. L'âme spirituelle, c'est le bouddhi, et l'ego spirituel qui est ici. Il y a donc deux égos qui apparaissent. Et kama, manas, vous voyez qu'ici, il y a manas, qui fait partie de la triade que tout à l'heure je vous ai fait voir. Et puis ici, on a de nouveau manas, mais qui est dans kama. Kama, c'est un terme sanskrit qui désigne la triade inférieure. Donc ça veut dire que dans cette triade inférieure, il y a à un moment donné un peu de manas qui est projeté. Comment est-ce que ceci, ça se passe? Ah, là, j'ai un petit coup de pub, hop, c'est la prochaine conférence. Qu'est-ce que c'était de quoi la prochaine conférence? Je ne me rappelle pas du titre. On a le titre.
L'être humain, origine et évolution.
L'être humain, origine et son évolution. Alors là, c'est certain qu'on ne va pas commencer à parler de comment est-ce que de l'asticot primordial biologique ou de la larve, on arrive au corps biologique qui est le nôtre. Parce qu'on a beaucoup d'éléments. Donc on est très très documenté sur ça. Non, ce qui va nous intéresser, c'est la naissance de l'homme et son évolution spirituelle dans l'enseignement et la perspective de Madame Blavatsky. C'est fondamental, on a besoin d'une anthropogénèse, sinon on est perdu. Il faut qu'on sache par quelle voie il nous est possible d'aller d'un point A à un point B, hein? On s'en verra la prochaine fois. Donc voilà pour faire la distinction. Alors moi j'ai pris une petite figure là. Vous voyez, ça c'est cette magnifique pièce qui est une reproduction égyptienne. Une pièce égyptienne, très belle, très lourde aussi. Voilà, très belle, et qui est la production de notre atelier de reproduction. Ça s'est fait ici, ça. Et en plus, sac, ça se démonte. On a un sac, trois pièces en une, trois en une pour le même prix. Ouais, il faut y réfléchir à deux fois. Hein. Bon, ça, c'est le socle. La notion, parce que tout ceci c'est du symbole, hein. La notion de socle, la notion de trône, la notion de siège, par exemple une cathédrale, c'est un siège. C'est un siège pour que quelque chose puisse s'asseoir dessus. Quand vous regardez dans le symbolisme des civilisations, les représentations des déités ou des dieux sont bien souvent représentées avec un support. Alors ça peut être l'animal, qui est comme le véhicule par lequel ce dieu ou ce sage se déplace. Mais ça veut surtout dire qu'il y a un socle vivant, physique, vital et sensible, physique, sensoriel et sensible, et qui peut obéir, donc il y a une dimension mentale, pour pouvoir s'asseoir et agir. Parce que les dieux ne sont pas simplement là pour s'asseoir, dans les représentations symboliques. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont fatigués, ils ont besoin de s'asseoir, fumer une petite cigarette, prendre un petit Coca-Cola, et puis continuer leur démarche. Hein? Ils s'assoient pour rayonner, pour que ce qu'ils représentent puisse se canaliser à l'intérieur du monde dans lequel nous vivons. Bon. Pour ça, une cathédrale, ce n'est pas une fin en soi, c'est un intermédiaire. Alors, donc là, on a le socle. Alors, le socle, c'est ici. C'est ce tout-là. Donc, non, la spiritualité se préoccupe du corps. Il faut soigner son corps. Il ne faut pas faire le culte du corps, mais il faut soigner son corps. Parce que c'est le véhicule. C'est par cela que l'on peut faire les choses. Une fois qu'on sort du corps, on finit, plus de corps. Donc ça va être un peu difficile de faire des choses que l'on ne peut faire qu'avec des corps. Hein? Bon. Ensuite, on a ici. Alors, voyez, lui, hein, c'est le singe cynocéphale, dit-on, comme ça qu'on l'appelle. Et c'est une représentation d'un véhicule de Thoth, qui est une divinité égyptienne, Thoth, qui va, dans la symbolique grecque, devenir Hermès, et dans la symbolique romaine, Mercure, avec des pertes à chaque fois, mais quand même, c'est d'ailleurs
représentant comme le mental philosophique. Hein? Pour ça, c'est le mental philosophique qui peut se relier à la sagesse. Donc lui, il est là.
Il est l'intermédiaire. Donc en fait, on devrait le mettre là, comme ça. Vous voyez avec l'ombre là ? C'est-à-dire que ceci est dans le monde de l'âme et ça est dans le monde de l'esprit.
Il représente le véhicule de la lumière, de la sagesse. Pour ça, c'est un singe. Mais oui, pourquoi ? C'est un singe. Bon, pour plusieurs raisons, mais on choisit cette symbolique-là parce qu'on va retrouver ça plus tard dans d'autres cultures où on va nous dire, tu sais, finalement, nous, là, on est tous des singes. Pourquoi ? Ben parce qu'on singe. On singe la publicité, on singe la mode, on singe l'opinion publique, on singe les écrits qui sont suffisamment puissants et collectifs pour nous convaincre que c'est bien, etc. Donc, c'est une phrase d'alchimie. Hein. Mais puisque on singe, peut-être qu'il serait intelligent de temps en temps, et peut-être plus souvent que de temps en temps, de singer Dieu. Peut-être que c'est pas mal de singer la sagesse. C'est-à-dire d'avoir comme critère d'inspiration et d'illumination les valeurs fondamentales. Alors, si tu singes un petit peu dans ta vie, mais bien, hein, comme un bon singe, là, tu singes dans ta vie quelques vertus fondamentales, ça ne va pas te faire de mal, ni à toi, ni aux autres. Plutôt que de singer les pulsions les plus, disons... Et lui, bon ben il est là. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que ça c'est corps, ça c'est âme, et ça c'est esprit. Et j'ai pris cet exemple-là, mais il y a bien d'autres cultures. Ça simplement pour dire, ben voilà, nous avons un patrimoine spirituel qui s'exprime dans un langage symbolique. Il faut en faire l'étude comparée. Et c'est ça qui va nous donner du combustible à notre propre quête et conquête. Bon, alors allons-y. Passons à la suivante. Voilà. Magnifique. Des beaux cercles. C'est moi qui les ai faits. Regardez comme ils sont parfaits. Et c'est même moi qui les ai peints. Évidemment, j'ai utilisé l'outil informatique. Mince. On n'est plus capable de peindre, de dessiner, d'utiliser les pinceaux, les porte-plumes, les outils. Bon. Je vais vous présenter rapidement, et puis un petit peu comme une séquence, qui est une séquence allégorique, mais aussi qui relève un peu du symbole, comment est-ce que on fait la connexion, on opère la connexion avec l'être intérieur. L'être intérieur, là. Il est là. C'est-à-dire, si l'être intérieur est, il est dans son monde. Le problème, c'est que pour qu'il se manifeste ici, il faut passer par nous. C'est-à-dire, pour que se manifestent les valeurs, il ne suffit pas de les dire. Il ne suffit pas de dire, il faut la générosité. Il faut la compassion. Il faut l'amour. Il faut le respect. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour ça, je ne fais rien, parce que je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je suis d'accord. Les gens qui ont à agir, c'est ceux qui ne sont pas d'accord. Alors, il faut qu'ils agissent pour être d'accord. Tout ça sert à très peu de choses. Il faut que ça devienne opératif, opérationnel. Il faut que ça s'incarne. Il faut que les valeurs s'incarnent dans l'individu, s'incarnent dans la société. Carne, la chair. Il faut que ça puisse se manifester. Ici, dans le monde dans lequel on est, l'homme intérieur est, mais n'existe pas. Vous vous rappelez, le psychisme est et existe. Qui est-ce qu'on a rejeté ? On a rejeté Mme Blavatsky, tous ses enseignements. On a voulu nous faire croire que Mme Blavatsky était finalement celle qui avait inspiré Hitler. Hein ? Que c'est elle qui avait pensé au nazisme. Tout ça parce qu'elle nous a présenté dans les symboles, notamment la swastika. Hein, c'est-à-dire ce qui a été appelé plus tard la croix gammée, qu'on trouve partout. Chez les Indiens, chez les Hindous, partout. Vous allez au musée À Toronto, il y a des magnifiques pièces chinoises de Bouddha, avec, là où il y a le cœur, une swastika. C'est-à-dire, tout ça, c'est sont des visions qui sont complètement erronées et qui ont le pouvoir de faire repousser. La grande exclue, c'est Blavatsky. C'est Madame Blavatsky. C'est-à-dire sa doctrine. La doctrine secrète, quand je dis sa doctrine. La grande exclue. C'est absolument pas opératif. Pourtant, l'opération dont elle nous parle, c'est comment faire la liaison entre les deux. Pas t'attendre à rencontrer l'esprit au coin de la rue. Bon, quand je suis arrivé ici à Montréal, c'est la première chose que je suis allé faire tout de suite. Je suis en quête de l'esprit, j'étais aussi à cette époque-là en quête de l'esprit, peut-être un peu moins en conquête, peut-être un peu plus j'espère maintenant, mais en quête de l'esprit, je suis tout de suite allé chez Jean Coutu, parce qu'on trouve de tout, même un ami, et si on trouve de tout, même un ami, peut-être je vais trouver l'esprit, je regardais dans les rayons, j'ai soulevé les choses, j'ai acheté même pour regarder dans l'intérieur, au cas où c'était à l'intérieur, je n'ai pas trouvé l'esprit, non, il n'est pas là l'esprit, c'est pas son monde, ceci n'est pas le monde de l'esprit. Il ne peut exister que comme symbole vivant au travers de tout ce qui est vivant. Nous devons devenir des symboles vivants de l'esprit. Mais pour ça, il faut s'y connecter. Et encore une fois, on ne se connecte pas à l'esprit en se connectant au psychisme. On n'a pas besoin, il est là, le psychisme. C'est lui qu'il faut travailler. Hein? Bien, alors voilà. Alors là, j'ai mis entre guillemets parce que ce sont des phases. Voilà, ça c'est le minéral. Dans cette vision... qui est la vision qui nous est transmise, tout est vie, tout est conscience, tout est esprit, mais potentiellement. Alors, passons à la suivante. Chic ! Vous voyez ? Il y a quelque chose qui se passe là. Hein ? Vous voyez, il y a une différence. Repasse l'ancienne, là. Pas l'ancienne, la précédente. Regardez. Vas-y. Hâte ! Qui va chercher là ? On appelle ça âme végétale. Conscience végétale, âme végétale. Ça fait rire, alors forcément le matérialisme. Et c'est bien, parce que moi je suis content que la spiritualité puisse avoir cet impact positif de faire rire le matérialiste. Au moins, on sert à quelque chose, on lui amène du plaisir. Vous voyez, hein? Parce que la spiritualité intègre la matière. À l'envers, non. Le matérialisme n'intègre ni l'âme, ni l'esprit. Donc on est plus ouvert. D'une certaine façon. Yeah. Mais on sait aujourd'hui que la plante, elle réagit à la musique. Il y a eu des expériences qui ont été faites, des expériences scientifiques, là, hein, c'est des trucs bien, bien établis et autres, comme quoi, ben, en fonction de la musique que tu fais écouter, la plante, elle a un métabolisme végétal qui diffère. Mais réel. Alors, c'est un petit peu comme si elle avait une sensibilité. L'âme, c'est la sensibilité. Quand on dit quelqu'un de l'âme, c'est qu'il est sensible. Évidemment, c'est un langage qu'on utilise tous les jours. Donc, âme végétale. Mais bon, la connexion, c'est pas encore là. Mais il y a progrès entre l'âme minérale. Bon, je ne l'ai pas marqué, mais il y a le minéral. Pourquoi ? C'est dedans. C'est dedans. Vous voyez que c'est un morceau de charbon, n'est pas un diamant. Pourtant, un diamant, c'est du charbon. Mais c'est pas le même état. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans le monde minéral. L'évolution commence même peut-être avant le minéral. C'est-à-dire dans tout ce qui est pré-minéral. Les forces fondamentales. Hein, tout ça rentre dans l'intelligence du développement de l'univers de tout ce qui s'y trouve. Oui, la suivante. Il y a quelque chose de plus. Et il y a une solution de continuité. Il y a continuité. Passe dans précédent, regardez. Suivante. Tac, voyez, il y a continuité. C'est pas quelque chose de plus qui vient. C'est pas que la différence entre le végétal et l'animal, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. Mais il y a quelqu'un qui est venu et puis qui a rajouté, on ne sait pas à quoi, un plus. C'est pas un Lego. C'est pas un jeu de cubes où on rajoute des choses. C'est un développement. C'est pas une croissance. C'est d'abord un développement. Les choses se développent. Et elle se développe avec plus de possibilités, plus d'éléments. Donc on peut dire qu'il y a plus d'éléments, il y a croissance en termes de nombre d'éléments. Mais il y a développement de l'intériorité. Là on arrive à l'étape animale. Vous verrez la semaine prochaine que je vais tout traduire ça, synthétiquement, en termes d'évolution. Comment c'est le titre, la naissance de...
L'évolution du végétal.
de l'homme. Naissance, hein?
Évolution.
Évolution de l'homme. Montons. Ya! Ça y est, quelque chose vient de se passer. Vous voyez ce qui vient de se passer? Contact. Contact. Alors on n'est plus dans le végétal, on est dans l'animal humain. Il y avait l'animal avant? Oui, animal. Vas-y, animal humain. Et pouf, tilt! Tilt. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, commence le patrimoine spirituel. Parce qu'il ne peut pas y avoir de patrimoine spirituel s'il n'y a, à pratiquer s'il n'y a pas un contact. Alors on arrive là, ici. C'est l'animal humain. On le connaît très bien, même dans la vision matérialiste, il est dénommé. L'homme est un animal doté de raison. Hein? Ça, c'est l'animal doté de raison. Doté de raison, ça veut dire avec un contact avec le manas, c'est-à-dire avec l'intelligence spirituelle. Étincelle manasique, le feu de Prométhée. Pourvu Prométhée. On va, le Zeus est en colère totale. Il va le prendre, il attache à un rocher. Et voilà, sa punition. Et puis il y a un aigle qui vient tout le temps lui bouffer son foie. Mais le foie repousse. Alors l'aigle revient. Et voilà la grâce qui vient de châtier Prométhée dans ce qu'il fait. Le foie est symbole de quelque chose, mais aussi c'est une fonction très spécifique. Hein. Et qui est-ce qui va libérer Prométhée? Je vous rappelle que dans les textes, ce sont les textes grecs, on a Prométhée enchaîné, et puis on a Prométhée qui n'est plus enchaîné. Je préfère dire ça plutôt que déchaîné, parce que la traduction d'aujourd'hui déchaîné, c'est Trump et compagnie, là, c'est-à-dire c'est la chose qui est plutôt violente, là, non? Donc, malheureusement, on a perdu quelques mots de cette deuxième œuvre d'Eschyle, extraordinaire. La première, on l'a. Intéressante. Bon, c'est pour ça qu'au début, bing, voilà, ça y est, le chemin commence. Ça, c'est un tanka qui vient du Tibet. Magnifique. Il y a un petit livre. On l'a là, quoi. C'est le moment dans la pub. Publicité. Alors, vous inquiétez pas, dans les films, il y en a pour 5 minutes de publicité. Ici, il y en a pour 30 secondes. Hein. Non, il n'y en a pas. Et voilà. Vous voyez? On a confiance que tout va fonctionner bien, et puis non. Bref. Allez. Ya! Encore mieux. Vous voyez la différence? Non, je n'ai pas vu la différence. Va en arrière. Animal humain, remonte. Humain animal. Et la différence? Là, c'est plus que c'est un animal doté de raison, c'est une raison qui a un côté animal. Ah là, ça change. Mais on est trop souvent, avec même la vision contemporaine, avec l'animal doté de raison. C'est l'animal qui conduit. C'est pour ça qu'on cherche à résoudre les problèmes comment? Avec la force. Ah oui, j'ai oublié, ce que je disais tout à l'heure, c'est Hercule, Héraclès qui libère de Prométhée. Celui qui fait les 12 travaux, qui sont les phases dans la démarche pour connecter et pour travailler la personnalité pour que le contact puisse se développer à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que l'être intérieur puisse croître comme effet d'une manière manifeste dans la personnalité. C'est ce qui fait que l'être va devenir plus humain. Bon, là non, là c'est la raison qui a un côté animal. Ça, c'est un travail qui reste encore à faire, semble-t-il, de nos jours. Parce qu'on cherche à résoudre les problèmes par la force, pas par l'intelligence. Ici, humain-animal cherche à résoudre les problèmes et les conflits, les situations difficiles, avec l'intelligence. Et je vous assure, et je ne pense pas que là je vais dire quelque chose qui vous surprenne, c'est que ce qui se passe dans la société moderne, ici comme ailleurs, ne démontre pas qu'on essaye de résoudre les choses par l'intelligence, mais bien par la force. La force. T'es pas content? Bang! On y va. Au nom de la liberté, de la démocratie, etc. On y va. Bang! J'ai un petit conflit avec quelqu'un. Au lieu d'essayer, on s'assoit, on discute, attends, peut-être que, buvons un petit verre de vin, discutons et autres, voyons si on a la possibilité de résoudre ça. Utilisons l'intelligence. Non, alors, en cours. Je t'emmène en cours. Voilà. C'est-à-dire que la chose va être résolue par une force extérieure, même si dans ce cas-là, c'est une force qui est basée sur la légalité, sur la jurisprudence, sur les codes et autres. Hein. Bon. Et non, là, ça y est. Pour ça, je vous ai mis aussi ici. Parce que tout ça nous amène dans une symbolique, qui est la symbolique de la balance.
dans lequel il y a la triade inférieure et la triade supérieure. Là, maintenant, il y a une balance. La balance fait la jonction. La balance, c'est le symbole du monde intermédiaire. Hein? Voilà. Alors ça veut dire qu'il y a une situation d'égalité. Pas d'égalité vécue, mais de présence. Là, maintenant, nous sommes être extérieur et être intérieur. Nous avons les deux dimensions à l'intérieur. Hein? Mais ce n'est pas le psychisme. C'est une graine d'esprit. Ça veut dire qu'est-ce qui peut se produire ? C'est qu'il peut se produire qu'on donne quand même plus de poids à la triade inférieure ou plus de poids à la triade supérieure. Et c'est ça le carrefour. Dans la lame du tarot égyptien, c'est ça le carrefour. C'est ça la décision. Oui, continuons cependant. Voilà ! On arrive à l'humain. Humain. Et là maintenant, il y a l'équilibre des trois mondes. Ce sont les trois mondes qu'on vous présente ou qui sont présentés. Avec comme monde intermédiaire, ici, cette figure qui est là, qui est en jaune. Et si vous rajoutez ici un axe, vous avez la hache à double tranchant, qui est le laber, hein, qui est l'outil par lequel Thésée rentre dans son propre labyrinthe pour essayer de domestiquer le Minotaure, hein, au cœur du labyrinthe. Et il peut sortir du labyrinthe, il peut y rentrer, et y sortir grâce au fil d'Ariane. Intéressant. Bon, mais c'est pas fini. Là, on peut dire que le. Voilà. C'est ternaire. Remonte un peu avant, s'il te plaît. Une. Bon. Juste avant. Là. La suivante. Naît l'être humain. C'est à ce moment-là que naît l'être humain. C'est lorsque la présence d'une étincelle d'intelligence se trouve en lui que naît l'humain. Monte, s'il te plaît. Humain-animal, humain-humain, humain-spirituel. Vous voyez que là, hein, le poids de la matière est vraiment très diminué. Par contre, l'importance du spirituel est très forte. On peut prendre des exemples. Mettons dans le cadre de notre religion chrétienne, enfin dans la religion chrétienne, Mère Teresa. Manifestement, elle avait plus de compassion que de désir matériel. Prenons Gandhi. Hein? Et quand on voit le type de vie qu'il avait, c'est quand même assez simple. Hein? Mais alors, des éléments qui sont quand même tout à fait lumineux. Et c'est lui, toujours qu'on utilise la phrase magnifique, hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Quelques mots qui sont radicaux. Et pour voir, pour ça, soit le changement, il faut que tu changes. Et pour changer, c'est pas ton psychisme qui va te faire changer. C'est ta conscience spirituelle. Et pour ça, il faut te connecter. Il y a des voies pour ça. Nous, on appelle ça philosophie à la manière classique. C'est notre ligne. Dans les 70 pays dans lesquels on existe. Alors là, voilà, maintenant j'ai mis, vous voyez, la balance ici, parce que c'est un symbole intéressant au niveau de l'Égypte, avec le cœur qui est l'être humain, la conscience de l'être humain. C'est-à-dire quand l'Égyptien dit qu'il apprend par cœur, c'est pas par tête, c'est pas qu'une mémorisation par tête, ou si on a complètement déformé cela, c'est par cœur. C'est-à-dire avec cet amour, cette intuition, cette sagesse, qui est le propre de l'esprit spirituel. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont à dire, notamment tout ça, bref. Et on continue ici. Ici, il y a un chemin. Très rapidement, regardez, l'éléphant est tout noir, il arrive là tout blanc. Et puis après, il est dans un arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'il n'est plus véritablement sur Terre. Il y a un enseignement spirituel qui est notre patrimoine. Il faut qu'on s'y relie, il faut qu'on le découvre. Surtout si on pense, oui, qu'effectivement, l'homme intérieur n'est pas notre psychisme. C'est une graine de spiritualité qui exige une certaine démarche de nous. Oui, pas fini. Détachement. Bip. Détachement, vous voyez, c'est ça, là. Et pouf, détachement. Et là, bip, détachement. Qui est représenté avec la dernière vignette du livre des morts égyptiens. Bon, on ne rentre pas dans les détails, mais c'est là aussi, c'est ça qui fait que l'âme du défunt dans le dit livre des morts égyptiens, va rentrer dans les champs de Yalou, qui sont les Champs-Élysées, et qui représentent le domaine spirituel. Alors maintenant, tout ça là, qu'on vient de parler,
comment est-ce qu'il faut qu'on le traduise ici-bas, là où nous sommes, dans la vie qui est la nôtre ? Par la philosophie, par l'amour de la sagesse. Mais un amour de la sagesse appliqué. La philosophie, c'est pas pour les livres, la philosophie, c'est pour le cœur. Et il faut qu'on l'applique. Amour de la sagesse. Alors, on va voir ça en quelques petites, deux petites vidéos qu'on va vous présenter. Ça dure 2 minutes chacune. Ça va être là.
Le philosophe Socrate était célèbre pour ses questions sur l'essence des choses. Ses questions laissaient les gens perplexes. Un jour, le sage arrêta sur son chemin un jeune inconnu. Où faut-il aller pour trouver de la farine et de l'huile ? Lui demanda-t-il. Au marché, répondit instantanément le jeune homme. Et si l'on cherche de la sagesse et de la vertu ? Le jeune, déconcerté, ne sut que répondre. Suis-moi, je te l'enseignerai, sourit Socrate. Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que le bonheur ? Existe-t-il quelque chose d'éternel, d'immortel en ce monde ? Quel est le sens de la vie ? Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Et où est-ce que je vais ? Ces questions, et beaucoup d'autres, essentielles et éternelles, ont toujours captivé l'âme de l'homme, comme un appel mystérieux venu du fond des âges. C'est en cherchant des réponses à ces interrogations que nous devenons philosophes. Les questions les plus simples sont les plus essentielles. En nous posant de temps à autre ces questions, nous verrons alors comment nos réponses changent et comment notre âme découvre toujours davantage le sens mystérieux de la vie.
On passe à la suivante.
La philosophie n'a jamais été un savoir purement théorique, mais elle était le reflet des différentes facettes de la vie. Depuis les temps reculés, l'histoire garde dans ses annales des souvenirs des écoles de philosophie. Nouvelle Acropole est une tentative pour appliquer les connaissances et les valeurs des écoles de philosophie antiques qui restent actuelles pour l'homme de notre temps. Les antiques écoles de philosophie étaient des exemples d'une exceptionnelle fraternité philosophique qui réunissait des hommes et des femmes de vocations et de professions différentes, dotés de talents multiples et variés. Elles constituèrent des chaires universitaires scientifiques et, en même temps, des temples des muses où l'on cultivait l'amour du beau et de l'harmonie à travers la pratique des différents arts. Les études de philosophie et leur application pratique dans la vie permettaient aux disciples un éveil progressif des multiples potentialités de l'âme et de l'intelligence. Telles furent l'école pythagoricienne, l'Académie fondée par Platon à Athènes, l'école néoplatonicienne d'Alexandrie, l'Académie platonicienne dans la Florence de la Renaissance et beaucoup d'autres. Les confréries philosophiques qui œuvrèrent au long des siècles ont laissé des traces précieuses pour la postérité. De nombreux disciples de ces confréries devinrent des hommes illustres à leur époque. La philosophie a toujours uni les hommes autour des valeurs éternelles. En ce sens, l'aspiration principale de Nouvelle Acropole consiste en une renaissance de la sagesse et des traditions immortelles du passé, pour leur donner une application pratique à l'époque contemporaine.
Bon, ce sont deux extraits d'une vidéo un peu plus longue
que nous avions préparée pour la célébration des 50 ans
d'existence de Nouvelle Acropole.
Pip.
Ah oui, oui. Vous avez remarqué. Il y avait les vidéos qui étaient là tout le temps, mais il y avait toujours ça. Pour les gens, les gauchers et pour les droitiers, on a pensé d'une manière universelle. C'est la date à laquelle commence un nouveau cycle.
Bon, on se donne un peu de temps, si vous voulez, s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, tant mieux. Je veux dire, tant pis. Il y a une prochaine conférence. Mais s'il y a des questions ou des remarques, je vous en prie. Hein. Dès l'instant qu'elles sont toutes positives, je serai content. Parfait, c'est bien. J'adore ces moments de contemplation. Il y a une ambiance d'une mystique intense. Tu peux éteindre, ça nous dérange là dans la concentration. Le bruit du ventilateur.
Juste un commentaire quand on disait que on peut pas attraper l'âme. Descartes y avait essayé, il avait trouvé la glande pituitaire là, qui était le siège de l'âme.
Ouais, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est vrai, de toute façon, il faut qu'on comprenne qu'aucune fonction, aucune, ne peut se manifester sans un organe. Il faut bien qu'il y ait un organe pour qu'elle se manifeste. Donc là, il y a des petits. Celle-là aussi, là, pendant longtemps, on a dit que ça ne sert à rien, il y a du sable. Et puis maintenant, on commence à se rendre compte des si ça sert à quelque chose, et même à quelque chose d'important, dans la question de l'équilibre harmonique entre toutes les fonctions qui sont les fonctions les plus, disons, vitales de l'être humain, du corps humain. Vous verrez la semaine prochaine que il y a le côté de la surprise, un petit peu, la semaine prochaine. Non, ça ne sera plus une surprise si je le dis, donc je ne le dirai pas. Hein ? T'as vu la méthode ? Très bon, là. Prenez de la graine. Non, c'est que ce n'est pas nous qui nous accrochons à la triade. C'est la triade qui s'accroche à nous. Et ça. Sinon, on peut se perdre complètement. Parce que je vais m'accrocher à l'esprit. Tu peux chercher à t'accrocher à l'esprit, ça va prendre du temps. Hein. Parce que l'esprit, c'est rien. Il est où, l'esprit ? C'est pas tangible, ça n'existe pas. Ça est, mais ça n'existe pas. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est travailler sur soi, de manière à arriver à un état où là, l'esprit va pouvoir se manifester. C'est l'histoire que j'ai faite avec la lumière. Ça ne sert à rien d'essayer de produire, d'attraper la lumière. Ce qu'il faut faire, c'est... Tout ça, c'est le sens de la formation... De soi, en fait.
Est-ce qu'on peut dire que le corps est l'empreinte de l'essence ?
Si on arrive à la fin, oui, c'est ce qu'en Égypte, ils appellent ça le corps ani ou le corps de lumière. Ou, de point de vue de la symbolique de notre propre tradition, enfin, tradition occidentale chrétienne, c'est le corps de gloire. C'est quoi un corps de gloire ? Moi, je connais un corps de muscles. D'intestin, de foie. Donc c'est sûr que c'est un état intérieur. Nous sommes l'obstacle à la lumière. Mais en même temps, nous sommes la résolution qui peut permettre à cette lumière de passer au travers de nous et de s'exprimer en tant que réalité humaine. Platon disait que le corps est le tombeau de l'âme et son berceau. C'est beau, hein? Ça veut dire que d'un coup, tu peux pas penser que je vais me détacher du monde. Alors je me détache du monde, alors j'ai plus vraiment de préoccupations de la politique, de la société, des problèmes de contemporains. Je me retire du monde, et puis avec ça, je vais atteindre une illumination. Oui, peut-être. Aucune espèce d'idée. Par contre, toutes les spiritualités nous disent qu'au contraire, le champ de ta propre métamorphose, c'est le monde dans lequel tu es né. C'est ta réalité existentielle. C'est là où tu peux faire quelque chose. C'est là où tu peux progresser. C'est pour ça que c'est philosophie et pas sagesse. La sagesse est un état qui est au-dessus de la philosophie. Nous, on n'est pas des sages, on est des... On essaye d'être des apprentis philosophes. Philosophie appliquée. Pas...
Justement, vous me le servez sur un plateau, vous parlez de philosophie appliquée. J'ai envie de vous lancer une invitation à nous donner une anecdote ou peut-être une démonstration pratique par rapport au fait de singer. Vous avez dit singer quelques vertus fondamentales. En parlant du mental philosophique, vous, Denis, en ce qui vous concerne, comment vous singez certaines de vos propres vertus fondamentales ?
J'essaye.
Vous essayez ?
Je suis passé... C'est-à-dire que quand on regarde le monde des singes, il y en a un certain nombre. D'ailleurs, il y a les singes comme lui, par exemple. Normalement, c'est des singes qui peuvent avoir les fesses rouges. C'est à peu près là où j'en suis maintenant. Je passe dans les singes à fesses rouges. Mais j'ai bon espoir d'aller vers le orang-outan, le gorille, etc. J'essaie de faire de mon mieux. Et je dois humblement reconnaître que j'arrive parfois à faire mieux. Mais que... c'est lourd encore. C'est encore lourd. Il y a des fois, je m'emporte, m'énerve, je fais semblant de pas voir alors que je vois. Je sais très bien qu'il faut que je fasse ça, parce que ça le demande, et c'est normal. Je détourne mon regard pour me trouver une raison supérieure de ne pas le faire. Je ne veux pas me décrire, je ne veux pas vous décourager, c'est ça. Mais il faut, on est tous dans le même bateau. Alors c'est pour ça qu'il faut s'entraider. Ça c'est bien une fraternité comme il a été expliqué dans la vidéo, une fraternité philosophique, parce qu'on peut s'entraider. On est tous quelque part maîtres et disciples des uns des autres. Il y a des choses qui sont remarquables, il y a des choses qu'une personne fait. Tu ne sais même pas si elle est connectée à la doctrine secrète, ou à telle spiritualité, ou si elle marche sur la voie de la conquête intérieure. Mais ce qu'elle fait, c'est inspirant. Tout ce qui peut nous inspirer des autres est autant de sources que c'est à singer. C'est-à-dire à imiter. Imitatio Dei. On nous dit que l'univers, dans le comment s'appelle-t-il, enfin le Dieu créateur, le démiurge, le démiurge, c'est celui qui équivaut au manas, c'est-à-dire l'intelligence en action, mais du point de vue plus universel, il applique dans la matière l'image archétypale. Donc il imite l'archétype. C'est l'imitation divine. C'est essayer de se conduire dans la vie en imitant le bien, le beau et le juste. Et comprendre où sont mes obstacles. Parce qu'il n'y a pas de raison à ce que je ne le fasse pas. On pourrait dire, bon, non, si tu n'as pas le coefficient intellectuel, ça, tu es foutu. Si tu es blanc, tu ne peux pas le faire. Seuls les jaunes peuvent le faire. C'est pour ça que dans un des principes, c'est au-delà de toute distinction de race, sexe, couleur, religion, profession, salaire, sexe et compagnie. Il faut s'entraider. Donc voilà, j'essaie de faire de mon mieux, et puis mon maître me dit tu sais, ce que tu fais, c'est pas ton mieux. Alors, j'ai envie de lui mettre une claque dans les chicots, dire, mais tu commences à me faire chier, excusez-moi l'expression, on va effacer ça. Mais à la limite, rien. La voix du silence, écoutez la petite voix là. Eh? Tintin, là, elle m'inspire beaucoup, là, Tintin au Tibet. Là, hein? Je raconte toujours cette histoire. Alors, quand ils sont dans la montagne, et puis qu'ils sont pognés dans la montagne, et puis il faut vite aller chercher du secours, il envoie Milou, petit chien. Petit caniche blanc là qui descend à toute vitesse pour sauver son maître et autres. Puis d'un coup, au détour d'un chemin, il tombe sur un os. Elle ne me dit pas, il n'a jamais vu un os comme ça. Mesure 2 mètres de long. Et un truc énorme. Il essaie de le prendre, il ne peut pas le prendre, mais il est complètement... il est fasciné par l'os. Et d'un coup, pop, hop, il y a le petit Milou satanique. Avec des petites. C'est un peu la figure du diable avec la fourche, là. Puis il y a l'autre angélique, un peu bébête. C'est sûr qu'on ne va pas suivre le petit ange qui dit, un peu d'une façon molle, mais non, écoute, tu sais, tu as une mission, il faut que tu fasses le nécessaire pour sauver ton maître. Un truc un peu mielleux, l'autre, le rouge, le satanique, il dit, écoute, t'entends cette espèce de charlot, là? Regarde cet os!
Tu n'en as jamais vu un comme ça, tu n'en verras jamais un comme ça. Profite, saisis l'occasion, vis le moment présent. Oublie le passé, c'est ton maître qui crève là-haut. Oublie l'avenir, hein, bouffe, c'est, vis dans l'instant, l'instantané, roi qu'aux soupes. Comment ? C'est ça le truc. Ça. Alors, c'est pour ça que dans la réalité, les anges nous sont toujours représentés dans la symbolique spirituelle armés. Ils ne sont pas mielleux. Ils sont armés. C'est du genre chevalier. Même Rambo est incapable d'en battre un seul. C'est au-delà de Rambo et de Rambette. Au-delà. Ils sont les gardiens du feu. Les gardiens du Graal. C'est pas de la mollesse, là. C'est-à-dire, tu rentres au paradis, nous dit-on, droit. Et alors, on peut citer Marc Aurèle qui dit, ben, seras-tu droit ou redressé? Alors, tu peux être redressé par l'extérieur, donc certainement croche. Parce que tu vas assumer une forme, une identité qui n'est pas la tienne. Donc, c'est loin de l'atma, hein. Ça va être une illusion. Non, il faut être droit. Bon, mais qu'est-ce qui m'empêche de l'être sinon que moi-même? Donc je dirais, j'essaye de m'inspirer de la voie philosophique à la manière classique. Voilà ce que je peux dire. C'est pas moi qu'il faut imiter, c'est l'enseignement auquel on peut accéder. Voilà. Bon, alors merci de votre présence. Vous allez vous réchauffer dehors.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.